Merci Benjamin, et effectivement c'est un grand plaisir d'être ensemble, de se retrouver, de pouvoir avoir des moments conviviaux, de détente, de partage, et aussi de s'approcher de la parole de Dieu. Alors j'avoue que ces colonnes, c'est une méditation que je n'ai jamais moi-même entendue, elles sont un peu oubliées, on les a peu facilement. Je pense que plusieurs ont découvert de quoi je veux parler. Elles sont dans la Bible, ces colonnes. Hein. Je sais que plusieurs les ont découvertes. Mais ce matin, donc, nous allons les regarder d'un peu plus près et voir les applications pour notre vie, afin que cette journée soit aussi contributive à nous enrichir, à nous permettre de progresser et d'aller de l'avant. Pour le faire, nous allons faire un voyage. Alors, certains ont eu le privilège d'aller à Jérusalem, certains en reviennent récemment. Qui va aller à Jérusalem cette année? Encore d'autres projets? Je sais qu'on en parle souvent. Alors, je vais vous montrer une première diapositive. La première diapositive, c'est qui nous permet de voir Jérusalem du temps de Christ. Donc, c'est voilà, pour vous mettre dans le contexte, hein. Du temple de Christ, bien sûr, quand Christ est venu, il y avait le temple. Et le temple, vous le voyez, donc en haut à droite, et le temple était le cœur de la vie spirituelle. C'est là où Dieu avait décidé de placer son nom et d'être vraiment présent. Et sa présence était matérialisée par une gloire, une colonne de feu et de nuée qui montait du temple. Et donc il y avait là, à Jérusalem, cet endroit spécifique qui permet de comprendre après tout le reste de toute la Bible. Et c'est important d'avoir ce panorama et ce début. Alors, si vous allez un jour à Jérusalem, ce qu'il faut faire, c'est à côté du mur de lamentation, il y a un endroit où on peut voir le temple. Le temple n'existe plus. Il a été rasé en 70. Et c'est là où se trouve une mosquée à présent. Et à l'endroit où était le temple, il y a un dôme qu'on appelle le dôme du rocher. Mais on peut, à Jérusalem, voir le temple virtuellement. Alors on prend un casque 3D, on s'assoit sur des fauteuils qui tournent à 360 degrés, et on avance dans le temple. Et alors, on va prendre la deuxième diapositive, où on voit donc le temple, on peut apercevoir les cours intérieures, on voit là l'autel où sont sacrifiés les animaux, et le sacrificateur, qui était un des personnages principaux, prenait le sang et allait dans le temple, dans la présence de Dieu, présenter le sang. Et ainsi, le peuple était pardonné. Puisque le principe constant de la première page à la dernière page de la Bible, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est pour cela qu'il y avait tout ce protocole. Le temple, les animaux, les sacrifices et le sacrificateur. Donc on peut voir tout cela. Alors virtuellement, c'est impressionnant. On bouge autour de l'autel, on voit le sacrificateur qui fait le sacrifice, on voit des choristes qui louent le Seigneur, on entre dans le lieu saint, chose on n'a pas le droit en vrai. Si le temple existait, on ne pourrait pas rentrer puisque c'était seul le sacrificateur qui pouvait le faire. Et nous voyons tout cela. Je voudrais vous lire deux versets, Matthieu 9, 11, qui dit « Christ est venu pour vous aider à bien... » Parce qu'une fois qu'on attache les vérités de la parole de Dieu ensemble, tout devient plus simple et plus clair. « Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. » Il a traversé le tabernacle ou le temple, hein, plus grand et plus parfait qui n'a pas été construit de main d'homme. C'est-à-dire de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang des agneaux et des boucs, mais avec son propre sang. Afin de nous obtenir une rédemption éternelle. Hébreux 10, 19, ainsi donc, nous, les uns, nous autres, hein, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, hein, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile de sa chair, nous avons donc en Christ un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, car s'il y avait une maison à Jérusalem, il y a la maison de Dieu céleste. Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et les corps lavés d'une eau pure. Ainsi, nous voyons que le temple préfigurait, ou si vous voulez, sa mise en place annonçait ce que ferait Christ plus tard. Autrefois, on allait, on devait sacrifier des animaux, mais maintenant, nous n'avons pas besoin d'autel, on n'a pas besoin de sacrifice. Christ a donné sa vie et je m'approche du Saint des Saints, qui n'est pas à Jérusalem, qui est au ciel, par le précieux sang de Jésus-Christ. Et tous les éléments du temple, l'autel, la cuve des reins, les chandeliers, le chandelier, tout rappelle un aspect du ministère de Christ et de notre relation avec lui. Et il y a des études formidables qui peuvent se faire avec le tabernacle, qui était la première version mobile du temple, avant qu'il y ait le temple à Jérusalem. Mais nous allons maintenant aller dans 2 Chroniques 3:15, où Salomon fit 3:1 d'abord, Salomon commence à bâtir le temple. Et dans 2 Chroniques 3:15, nous lisons, il fit devant la maison 2 colonnes de 35 coudées. Alors nous arrivons aux colonnes. Quand le temple a été construit, il fit 2 colonnes. Et ces colonnes, on peut les apercevoir là, derrière le feu. Nous allons les revoir. Mais écoutez bien 2 Chroniques 3:15, ou si vous l'avez dans vos Bibles, vous pouvez le lire. Hein. Il fit 2 colonnes de 35 coudées de hauteur, avec un chapiteau de 5 coudées sur leur sommet. Il fit des chaînettes, comme celles qui étaient dans le sanctuaire, et les plaça au sommet des colonnes. Il fit 100 grenades qu'il mit dans les chaînettes. Il dressa les colonnes de devant le temple, l'une à droite et l'autre à gauche. Combien d'entre vous aviez remarqué qu'à l'entrée du temple, il y avait 2 immenses colonnes qui font la bagatelle de au moins 15 mètres. On sait qu'elles étaient au moins épaisses de 2 mètres. 2 colonnes immenses, l'une à droite, l'une à gauche. Et nous allons, quand chaque fois que vous avez des illustrations sur le temple, vous avez ces 2 colonnes. Alors, on va regarder encore 2 diapos où nous voyons donc les colonnes qui sont immenses. L'une a un nom, Jachin. Vous voyez, chaque fois qu'on représente le temple, il y a les 2 colonnes. L'une s'appelle Jachin et l'autre Boaz. Et ce sont ces 2 colonnes qui aussi sont des éléments du temple. Alors, encore une diapo, et puis on en aura fini avec les diapos. Vous voyez, une autre représentation du temple. Et on n'a pas oublié de mettre à l'entrée, dans le parvis de l'entrée, les 2 colonnes. Jachin, Boaz. Voilà, tout le message de la journée, ce matin et cet après-midi, c'est Jachin et Boaz. Voilà, j'espère qu'avec cela, vous avez un bon bagage. Car en fait, Jachin signifie Dieu établi. où Dieu affermit, Dieu construit. C'est la même pensée. Hein? Il est le fondateur. Et Boaz, en Dieu, est la force. Quand le sacrificateur entrait dans le temple, il allait pour plaider et obtenir le pardon. Et dans le temple, autour du temple, il y avait cette perspective du pardon, mais il y avait aussi de l'adoration, il y avait des louanges, il y avait une grande chorale, des instruments qui chantaient, il y avait donc toutes ces choses. Mais il y avait ces deux colonnes dont on parle très peu. Dieu construit et Dieu donne la force. Et pourquoi Salomon a fait ces deux colonnes? Quel témoignage ces colonnes peuvent-elles représenter? Sinon que je sais qu'en étant en règle avec Dieu, en m'approchant de Dieu, je n'oublie pas qu'il va me donner la force de construire ma vie. Et que tout ce que j'ai à faire, il va m'aider à le faire. Ainsi, le sacrificateur entrait dans le temple en disant, avec le pardon, je sais que j'aurai aussi le bénéfice de sa force et de sa sagesse. Et une fois le sang déposé, en sortant, il repassait devant les colonnes, comme un rappel. Oui, je peux me rappeler que je peux compter sur Dieu pour établir et pour me donner la force. Et cela correspond très bien à Jean 15, verset 5. « Sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. » Non pas, vous pouvez en faire un peu, mais « sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alors nous allons regarder quelques aspects de notre vie à nous qui nous intéressent directement. La première de toutes les grandes questions, c'est le salut. On peut dire aussi devenir chrétien. Devenir chrétien. Comment devient-on chrétien? Tout le monde le sait, j'espère. Devenir chrétien, eh bien, pensons à ces deux colonnes. C'est lui qui le fait et c'est lui qui en donne la force. Qui peut être sauvé? Les disciples ont demandé à Jésus. Et Jésus répond, aux hommes cela est impossible. Et oui, sinon il n'y aurait pas de colonne boise. C'est impossible aux hommes. Et quand j'étais adolescent, on m'avait confié, la première tâche qu'on m'avait confiée, c'est d'enseigner le salut aux enfants. Enfin, j'étais enfant encore un peu, mais des plus jeunes que moi encore. Et donc, je devais leur parler que le salut était impossible à obtenir par mes mérites, par mes œuvres, par mes efforts, par ma force. Et pour leur faire bien comprendre, je leur demandais, baissez-vous, prenez vos lacets, vous les avez bien en main, et maintenant, je récompenserai celui qui arrive à se soulever. Alors les enfants essayaient, mais ça ne marchait pas. Impossible. Donc pas de récompense. On ne peut pas se sauver. La Bible dit que c'est un don gratuit. Verset 8 d'Éphésiens 2 nous dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, Boaz. Et depuis que j'ai ces deux noms en tête, je vois des Boaz et des Jacquines partout, dans tous les passages. Ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Puisque le salut est un cadeau. C'est une grâce basée sur l'œuvre de Christ. Et le verset suivant dit ceci, nous sommes son ouvrage, Jacquine. C'est Dieu qui construit. Nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ. Boaz, c'est par lui qu'il nous donne la force de le faire pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Nous sommes son ouvrage. Mais c'est fantastique, de même que Dieu nous a créés, c'est lui qui veut être l'ouvrage spirituel. Parfois on essaie de s'arranger, de prendre des résolutions, mais nous ne parlons pas de cela. Aujourd'hui, on parle d'être l'ouvrage de Dieu. Le mot ouvrage, dans l'original, c'est le mot poiemo, qui va donner le mot poème. Mais vous savez que la définition d'un poème, c'est une œuvre d'art. Poème veut dire œuvre d'art. Tout chrétien qui se laisse construire par Christ est une œuvre d'art. Et oui, vous ne le saviez peut-être pas, mais vous êtes une œuvre d'art. Vous êtes l'ouvrage de Dieu. Et une œuvre d'art, normalement, on l'admire, on la respecte, on est interpellé, on est touché. Et si Dieu façonne votre vie, il y aura un impact considérable sur les autres. Mais on ne peut pas aboutir à ces choses sans le Seigneur, sans sa force. Il nous construit, il met en nous la vie. Et cette vie spirituelle va se développer comme la vie physique, à partir de la conception, un programme incroyable se développe, les cellules se multiplient, mais elles ne vont pas n'importe où. L'une dit « Ah oui, je sais, je serai un cheveu », donc elle part dans un endroit. L'autre dit « Je serai un ongle », l'autre dit « Je serai un pied ». Mais c'est une architecture, cela. C'est d'une immense sagesse. Et c'est pareil spirituellement. Dieu veut nous donner la vie dans le cœur. Et puis ensuite, on va grandir. Après de devenir chrétien, une fois qu'on accepte Christ, on grandit. C'est quelque chose qui va nous accompagner, car Dieu veut qu'on grandisse. Il y a des images dans le Nouveau Testament qui disent « Ne restez pas des enfants, mais grandissez, devenez des hommes adultes dans la foi, des gens affermis. » Galates 4:27 traduit bien cette pensée quand Paul dit, il parle des chrétiens qu'il voit, qu'il connaît, hein, et il dit « Mes enfants ». Donc, spirituellement, ce sont ses enfants, parce qu'il leur a fait découvrir l'Évangile. « Mes enfants, pour qui j'éprouve à nouveau les douleurs de l'enfantement », évidemment, il parle sur l'aspect spirituel, hein, « jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Formé. Donc, Dieu veut former en nous, mais quoi ? Quel profil a le chrétien ? Mais c'est que Christ soit formé en nous. Alors formé, et la traduction d'un mot que l'on connaît, c'est morpho. Morpho, qui donne morphologie, ou métamorphose. Métamorphose, c'est la transformation. On est métamorphosé. Et d'ailleurs, ce mot, nous le retrouvons dans plusieurs passages. 2 Corinthiens 3:18. Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés, littéralement métamorphosés, en la même image. L'idée de Dieu, c'est de développer la personne de Christ en nous. Ce même mot métamorphosé est traduit par transfiguré. Dans Matthieu 17, quand il fut transfiguré, Jésus fut transfiguré devant les disciples, son visage resplendit comme le soleil, ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Une transformation. Et c'est un peu ce qui arrive quand quelqu'un laisse la personne de Christ se développer, il est métamorphosé à la même image. Et on pourrait dire que spirituellement, c'est vrai, le visage resplendit. Quand vous voyez quelqu'un qui a le visage resplendissant, heureux, c'est quelque part la trace du Seigneur qui est là. Des vêtements blancs, un nouveau comportement, tout change avec le Seigneur. Il fut transfiguré. Et posons-nous la question, est-ce que nos semblables, nos amis, notre famille, nos voisins, les enfants, les parents, époux, épouses, voient la métamorphose? Christ formé en nous. Et cette métamorphose affecte, impacte notre caractère jusqu'au jour où ça affectera notre corps. Parce que notre corps va grandir, va vieillir, va mourir. Mais la Bible dit, notre cité, Philippiens 3:20, notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons comme Sauveur et Seigneur, Jésus, qui transformera, métamorphose, le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Un jour, notre corps infirme deviendra glorieux, métamorphosé. Et le Seigneur a l'intention d'aller jusqu'au bout dans ce domaine. Et il y a un verset qui m'a beaucoup aidé dans ma vie chrétienne, c'est 2 Corinthiens 5:17. Celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Si je suis en Christ, par Christ, Boaz devient une nouvelle créature. Jacquim, Dieu va créer quelque chose, va bâtir, va établir. Les choses anciennes disparaissent et voici toutes choses deviennent nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. Boaz, c'est par sa force. Je ne peux pas devenir chrétien, mais je ne peux pas non plus m'améliorer, me perfectionner tout seul. Si Christ me prend en main, par lui je peux faire des choses que je ne ferai jamais tout seul. Et avec Christ, il y a un avant, un après. Donc c'est Éphésiens qui nous dit aussi, nous vivions autrefois selon nos convoitises, selon nos pensées. Dieu veut construire votre vie dans tous les domaines et jusqu'au bout. Mais vous direz, oui, mais c'est pas possible parce que le péché, il est trop fort, il est toujours là. Et c'est vrai que le chrétien aussi est tenté. C'est pas parce que Christ se développe en nous que la tentation s'arrête. Alors peut-être quelqu'un ici continue à batailler avec les tentations. Mais là encore, arrêtez, vous n'avez pas besoin de votre force. Seul la force du Seigneur permettra de vaincre. La Bible dit que la tentation est si forte que le diable, le tentateur, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et dans l'Ancien Testament, il y a des personnages qui ont croisé des lions, mais au sens littéral. Je pense à l'un d'entre eux, c'était Samson. Alors, il croise un lion, et en deux temps, trois mouvements, boum, plus de lion. Comment cela s'est passé? Juges 14:6, l'Esprit de l'Éternel saisit Samson, et sans avoir rien dans la main, Samson déchira le lion. Sans avoir rien dans la main. J'ai souligné cette expression trois fois dans ma vie. Aucun outil, aucune arme, sauf l'Esprit du Seigneur. Vous vous trouvez très démunis devant les tentations. Il vous semble qu'on n'avait rien en main. Très bien, ça pourrait donner de la place à la force du Seigneur. Et c'est cela qui est bon. Vous savez, parfois on admire des chrétiens et on les trouve consacrés, on les trouve performants, on les trouve, oh, admirable. On se dit, j'aimerais avoir sa spiritualité. Mais vous l'avez. Vous l'avez. C'est exactement la même. Oui, mais vous dites, je n'ai pas son caractère, je n'ai pas sa personnalité, je n'ai pas ses dons, etc. Mais tout ça, c'est des choses qui encombreraient votre main. Sans avoir rien en main, sauf la force du Seigneur. Avec sa force, Boaz, vous allez enfin pouvoir bâtir une vie sanctifiée. Car il est écrit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et puis ensuite, après être devenu chrétien, après avoir grandi, il faut établir. La construction de votre vie est une grande affaire. Là, nous parlons de choses spirituelles, mais il y a les activités, il y a les responsabilités et il y a l'affectivité. Vous avez une vie avec des sentiments, des besoins, des attentes. Personne ne fait exception à cela. Dans le psaume 127, verset 1, il est écrit « Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Si ce n'est pas l'Éternel, Boaz, qui construit une maison, Jacquin, eh bien, c'est en vain. Et ce psaume est placé dans un contexte, car si vous lisez le psaume avant, 126, il est parlé de l'Éternel qui ramène les captifs de Sion pour s'établir à Jérusalem, et c'est comme un rêve. C'est-à-dire que là, c'est 70 ans après de captivité, les Juifs reviennent à Jérusalem, et c'est un rêve, ils sont à nouveau chez eux. Et le Seigneur dit, attention, attention, on se calme, si vous ne reconstruisez pas avec moi, ça sera en vain. Ne m'oubliez pas. Vous savez, quand on sort d'une vie captive, d'une vie où on était loin de Dieu, loin du temple, loin de Jérusalem, eh bien, quand on revient, l'avertissement est là. Et les besoins légitimes sont nombreux. Notre vie est remplie de décisions à prendre. C'est pas le tout d'être chrétien, mais maintenant, comment je fais? Comment je travaille? Comment je me forme? Qui je fréquente? Avec qui je vais me marier? Comment je vais vivre? Mais toutes ces choses, attention! Vous vous installez, mais ne le faites pas sans moi. Si vous bâtissez sa maison sans moi, ça va s'écrouler, ça va pas tenir. Et il y a tant de choses où Dieu veut intervenir, nous modeler, nous aider pour améliorer notre personnalité, notre caractère. Et il faut du temps pour construire. Mais notre source, c'est la force de Dieu et la sagesse, la façon de faire vient de l'éclairage que Dieu donne. Et je pense à ce magnifique passage de Matthieu 7, que vous connaissez, verset 24, « Quiconque met en pratique ce que je dis et écoute, il sera comme un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison, elle n'est pas tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ce que je dis, mais ne le met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui bâtit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et cette maison s'est écroulée. » Et vous remarquerez ici que les vents, la pluie, les tempêtes, les torrents sont tombés autant sur le juste que sur le méchant. Sur celui qui avait écouté le Seigneur, comme celui qui n'avait pas écouté. Mes chers amis, bâtir demande beaucoup de sagesse, de temps. Mais ne vaut-il pas la peine de s'appuyer sur quelqu'un qui veut nous aider à tenir, surtout quand les épreuves seront là? La Bible dit aux jeunes, si vous vous mariez, mariez-vous dans le Seigneur. Que le Seigneur soit au centre de votre projet, car il y en aura des tempêtes, il y en aura des moments difficiles, mais que le Seigneur soit présent. Hein, ça me fait penser, vous vous souvenez du jeu là, qui veut gagner des millions? Alors le jeu, au début c'est très simple, hein, de quelle couleur est la neige? Oh, elle est blanche. Bon, des questions simples, et puis tout d'un coup, les questions changent. Jusqu'à un moment où on ne peut pas répondre sans faire appel à un ami. Alors on appelle l'ami en question et il aide. Et il envoie la réponse, alors on se l'approprie, on ne se l'approprie pas. Mais en principe, comme on ne connaît pas la réponse, on prend sa réponse pour aller encore plus loin. Et bien le Seigneur nous dit dès le départ, appuyez-vous sur moi. Oui, le Seigneur a même écrit et dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais il y a encore aussi un autre principe, c'est servir. Nous allons servir le Seigneur. La Bible dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Et Dieu, justement, pour bâtir notre vie, ce que nous allons faire, peut être fait avec sa force ou peut être fait de façon impulsive ou pour se faire voir ou avec des motivations qui ne sont pas bonnes. L'œuvre de chacun sera manifestée, nous dit Corinthiens. Hein, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Et comme le Seigneur habite dans notre cœur, nous devenons aussi en quelque sorte un temple qui se construit. Comment allons-nous travailler? 1 Corinthiens 1, 26 nous dit « Considérez, frères, que parmi vous qui êtes appelés, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, beaucoup de puissants, beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, et Dieu a choisi les choses faibles pour confondre les fortes. » Vous savez, c'est absolument merveilleux, encourageant. Notre impact, notre témoignage, tout ce que nous allons faire pour servir le Seigneur, nous n'avons pas besoin d'être des gens connus, des gens avec des pistons, des gens avec des fortunes, etc., etc. Dieu se sert des choses les plus simples pour confondre les fortes. Et il y a un exemple merveilleux, celui de Moïse. Vous vous souvenez, Moïse, il veut aider son peuple, pourtant il est quand même bien placé, il a été élevé chez le Pharaon. Mais il a pitié de son peuple, il sait qu'il vient de ce peuple et il va tuer un Égyptien. Et puis après, un de ses semblables va lui dire « Mais qui t'a établi juge sur nous? Veux-tu nous tuer comme tu as tué cet Égyptien ?» Et il a pris peur et le Pharaon veut le faire périr. Lui qui voulait aider, il ne peut pas. Et même Étienne, dans le Nouveau Testament, reprend cet événement. Il pensait, parlant de Moïse, que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. Il pensait qu'eux, mais ils ne comprirent pas. Et là, je m'arrête un instant dans votre service pour le Seigneur. Combien de fois vous avez voulu faire comprendre à quelqu'un, mais il n'a pas compris? Il n'a pas compris. Vous avez mis tous vos efforts. Bon, vous n'avez massacré personne, bien sûr. Mais vous êtes allé avec toute votre énergie, comme Moïse. Vous avez voulu montrer que vous les aimiez, etc. Mais ça a tourné, mais alors en fiasco. Et le fiasco de Moïse, il a duré 40 ans. Il est parti 40 ans. Et puis il revient. Mais cette fois-ci, il n'a plus d'accès auprès du Pharaon, il n'a plus de piston, il n'a plus de moyens, il est complètement démuni. Sauf, il lui reste une colonne, Boaz, la force de Dieu. Il n'a plus la sienne. Et avec la force de Dieu, il va construire un avenir pour Israël et les faire sortir de l'Égypte. À tel point qu'il est écrit dans Exode 13, « Et lorsque ton fils te demandera un jour que signifie cela, tu lui répondras, par sa main puissante, Boaz, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte de la maison de la servitude pour nous amener dans un pays promis, Jacquie, par la force de l'Éternel. » Ce qui peut nous encourager ce matin, aujourd'hui, c'est que Dieu finit toujours ce qu'il commence. Les chantiers, vous savez, il existe des chantiers inachevés. Il existe plein de maisons qui n'ont pas été finies. Les promoteurs sont partis, ont fait faillite. Il y a plein de chantiers comme ça où c'est une catastrophe. Mais Dieu finit ce qu'il commence. Et j'aime ce verset de Ecclésiaste 3:11. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Parce que souvent, on trouve que les chantiers vont passer vite. Il fait toutes choses belles en son temps, mais l'homme ne peut pas saisir l'œuvre que Dieu fait depuis le commencement jusqu'à la fin. On est dépassé par l'œuvre de Dieu. On ne la saisit pas entièrement. Alors Dieu, il achève. La Bible dit, pour la création, Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, la rédemption. Quand Christ est venu pour notre salut, Jean 17, 4, « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Je pense aussi à Israël. Israël, c'est très étonnant, parce qu'Ésaïe 45 écrit ceci, « Ainsi parle l'Éternel, veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains ?» C'est vrai qu'on conteste et on ne comprend pas le côté Jacquim de Dieu, le côté Dieu établi, Dieu construit. On est dépassé. Dieu s'est servi d'Israël et puis il le disperse parmi les nations. Les Juifs souffrent pendant des siècles. Mais c'est quoi la fin de l'histoire pour eux? Est-ce que ça se finit comme ça, en queue de poisson? Et verset 12, c'est moi qui ai fait le ciel et la terre. C'est moi. Ce sont mes mains qui ont déployé les cieux. J'ai créé tout ça. Donc Dieu rappelle son côté Jacquim, c'est lui qui établit. Et c'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice. Il rétablira ma ville et il libérera mes captifs. Alors excusez-moi, je vais un peu vite, mais ce Cyrus, Ésaïe ne le connaît pas, c'est le roi qui va aider Israël 100 ans plus tard à revenir dans le pays pour construire le temple. Et c'est Dieu qui suscite Cyrus. Et quand Israël va être déporté, c'est pas la fin de l'histoire. Mais Ésaïe ne comprend pas de quoi il est question là, mais qui c'est ce Cyrus ? Mais il est en train d'écrire des choses qui arriveront plus tard. Dieu finira avec Israël ce qui commence. Et l'histoire n'est pas finie. Dieu finira aussi avec les nations ce qui commence. Alors si vous lisez Ésaïe 2, vous découvrirez qu'un jour les nations ne se feront plus la guerre et on ne construira plus d'armes. Mais à midi, ou à une heure, si on écoute les infos, vous allez entendre un trafic d'armes invraisemblable, mais que les nations ne se fassent plus la guerre, c'est une chose qui n'a jamais été réalisée. Et Ésaïe aussi l'a écrite. Il a pu se dire, mais de quoi parle le Seigneur? Est-ce qu'un jour je vais connaître cela? Mais Dieu va finir l'histoire qu'il a commencée avec l'humanité. Et c'est aussi vrai avec l'Église. Alors pour Israël, on en parlera plus en détail le 14 mai, parce que à l'église de Pau, pour ceux qui sont sur Pau et sinon avec Internet, le 14 mai, nous aurons l'occasion de parler de la naissance d'Israël. Donc on reviendra sur ce thème. Et l'Église, quel grand chantier, dans le bon sens du terme. Quelle construction! Mais ça va finir comment, cette histoire? Alors on verra ça cet après-midi, sur l'Église. Hein. Et puis il reste nous, le chrétien. Alors j'aime cette phrase de Philippiens, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. » Oui, vous avez le sentiment d'être une œuvre inachevée. Enfin, c'est le sentiment que j'ai pour moi. Hein. Mais Dieu la rendra parfaite. Et je dois, même si je ne comprends pas toute l'œuvre de Dieu, je dois m'accrocher au fait que Dieu est plus sage que moi. Il y a des choses que Dieu ne me dit pas, il y a des choses que Dieu ne m'accorde pas, mais Dieu construit. Son plan sur tout arrivera à terme. Je pense à par exemple, au fait que Jésus-Christ naîtrait à Bethléem. Alors Joseph et Marie, ils n'habitent pas à Bethléem. Ils habitent le nord. Mais pourquoi se rendraient-ils à Bethléem? Dieu ne leur dit même pas aller à Bethléem pour que ma parole s'accomplisse. Dieu va permettre qu'il y ait un édit de César pour faire le recensement et tout le monde doit bouger pour aller dans sa ville d'origine. Et arriver à Bethléem, puisqu'ils sont dans le plan de Dieu, il devrait y avoir une chambre d'hôtel qui les attende. Eh bien non, pas de place, c'est complet. Et ils se retrouvent sur la paille. Alors nous, aujourd'hui, on trouve mignon une crèche, mais ça n'avait rien de mignon, hein. Sur la paille. Et vous savez, j'étais souvent ébranlé par les témoignages de certains chrétiens qui me disent « Ah, j'étais vraiment dans la volonté de Dieu parce que tout était réglé dans tous les détails. » Ben voilà un détail qui n'était pas réglé. Mais Dieu avait ses raisons. Dieu avait ses raisons. Et on n'a pas à être ébranlé. Le divin architecte construit avec une sagesse qui nous dépasse. On n'a pas besoin d'avoir peur ou de douter quand il nous semble, mais pourquoi Dieu n'est pas là à cet instant? Hein? Je pense à Job qui servait le Seigneur, qui aidait les autres. Et qui dit tout d'un coup, dans Job 17, « Mes projets sont anéantis. Ma vie s'écroule. J'ai pas le temps d'être sur un lit de malade. C'est vraiment pas le moment. » Et il le dit en ces termes. Hein, comment Dieu peut-il bâtir si moi je suis immobilisé? Il dira dans Job 10, « Mes jours ne sont-ils pas en petit nombre? Mais qu'il me laisse tranquille et que j'agisse. » Déjà que le temps est court, c'est pas le moment d'être immobilisé. Vous savez, on est un petit peu décontenancé et je voudrais, parce que le retour, je voudrais qu'on regarde ensemble Ésaïe 40, c'est un des textes qui m'a particulièrement encouragé dans ce sujet. À qui me comparez-vous, dit Dieu, pour que je lui ressemble? Levez les yeux, regardez qui a créé ces choses. Et Dieu à nouveau demande que l'on ait une attention sur la création. Qui a créé le ciel, l'univers, le mouvement des planètes, hein? Qui fait marcher en ordre leur armée? Qui? Ben c'est moi. Je suis un architecte et l'espace est appelé cosmos. Cosmos, ça veut dire ordre. C'est de l'ordre, c'est pas n'importe quoi. L'univers est une construction établie. Il appelle toutes les étoiles par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force. Boaz, il n'en est aucune qui fasse défaut. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, verset 28. Il ne se fatigue pas, il ne se lasse pas. On ne peut pas sonder son intelligence. Colonne Jacquin. Dieu n'en a pas fini avec moi. Ce qui peut m'apparaître comme une catastrophe, un échec, est sous la main d'un architecte intelligent. Et verset 29 nous dit, il donne la force. Boaz, à celui qui est fatigué, il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents, il y en a parmi nous, ils se lassent, ils se fatiguent. Alors c'est vrai que vous êtes appelés de plus en plus à vivre vite. C'est-à-dire, vous avez remarqué comment les films sont construits ? Il n'y a pas un plan d'image qui dure plus de 2-3 secondes. Il faut que ça bouge. On a du mal à rester attentif sur la même chose tant de temps. Et ce que vous faites ce matin est remarquable. De pouvoir rester sur la même chose. Hein? Parce que on est habitué à changer constamment. Constamment. On perd notre force, nos centres d'intérêt. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force parce qu'il est Boaz. Il est Boaz. Et dans ce plaidoyer, regardez l'univers. Je suis votre force. J'ai construit l'univers. Il n'y a pas de raison que je construise pas votre vie. Et pourquoi Dieu donne ce message à Israël dans Ésaïe 40 ? Parce qu'à un moment donné, le peuple dit ceci, verset 27, et c'est Dieu qui parle, il dit, mais pourquoi dis-tu, ma destinée est cachée, mon droit passe inaperçu ? Et c'est ça notre sentiment, on a l'impression que Dieu s'est arrêté de s'intéresser à nous. Et parfois, on est découragé simplement à cause de ça. Alors on voit tel ou tel chrétien le dimanche matin bénir Dieu pour plein de choses, puis nous, la semaine, à côté, elle nous paraît très fade. On se dit, mais est-ce que Dieu m'a oublié ? Mais Dieu ne peut pas oublier parce que Dieu finit ce qu'il commence. Il va finir le chantier qu'il a commencé avec vous. Il ne va pas vous lâcher. Alors prenez-le comme une mauvaise ou une bonne nouvelle, mais il ne va pas vous lâcher. Il ne va pas vous lâcher. Et je terminerai en citant 1 Thessaloniciens 5, verset 23, « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme, le corps, soit conservé irrépréhensible. » Voilà le plan de Dieu. Voilà ce que Dieu veut affermir. Que tout votre être soit affermi. Hein, c'est la colonne Jacquine. Lors de l'avènement de notre Seigneur. Celui qui vous a appelé, il est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Colonne Boaz. C'est lui qui le fera. Pas nous, mais c'est lui. Et chaque fois que je m'approche de Dieu pour avoir un temps de communion, oui, je peux imaginer qu'il y a cette application. Il y avait l'autel, il y avait le sacrificateur, maintenant c'est Christ. Mais je peux aussi me rappeler, je passe devant deux colonnes. En me réconciliant avec Dieu, en m'attachant à lui, je suis au bénéfice de sa force. Je passe devant les deux colonnes, Boaz et Jacquin. Le Seigneur me donne la force et il construit ma vie. Et il ne va pas s'arrêter, il va aller jusqu'au bout. Et je peux vraiment avancer avec confiance dans tout ce que Dieu a préparé. Amen. On va prier. Seigneur, nous te remercions parce que tu nous as donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et Seigneur, tu veux nous porter comme tes enfants bien-aimés. Merci Seigneur, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Merci Seigneur de ce que nous sommes entre tes mains. Et tu veux nous façonner, Seigneur, comme un potier façonne l'argile. Merci de ta présence et de ces moments bénis. Et Seigneur, que tu nous accompagnes tout au long de cette journée. Amen.
Amen.